L'éthique traditionnelle, l'éthique telle qu'elle a été conçue même jusqu'à présent, de telle sorte qu'elle laisse d'une certaine façon un vide par rapport aux questions les plus contemporaines. Voilà ce que dit Jonas au début du principe responsabilité. Il va donner quatre signes distinctifs de la morale ou de l'éthique jusqu'à présent. Et montrer par là qu'il y a quelque chose qui n'était pas pris en considération par cette éthique, et ça c'est normal, puisque le problème ne se posait pas encore. Alors, premièrement, vous voyez les quatre signes distinctifs. Premier signe distinctif, tout commerce avec le monde extra-humain, ce qui veut dire avec le domaine entier de la techné, l'art, était, à l'exception de la médecine, neutre du point de vue éthique, tant du point de vue de l'objet que du sujet de l'agir. Du point de vue de l'objet, parce que l'art n'affectait pas la nature des choses qui se préservaient elles-mêmes, n'affectait la nature des choses qui se préservaient elles-mêmes que superficiellement, de sorte que la question d'un endommagement définitif de l'intégrité de son objet, de l'ordre naturel en sa totalité, ne se posait pas. Du point de vue du sujet agissant, parce que la techné, en tant qu'activité, se comprenait elle-même comme un tribut limité, payé à la nécessité, et non comme le progrès auto-justificateur vers le but principal de l'humanité, dans la poursuite duquel sont engagés l'effort et la participation suprême de l'homme. Alors, première chose, la morale était une morale qui concernait d'abord les rapports interhumains. La morale traditionnelle s'intéresse aux rapports interhumains. Comment est-ce que je risque de blesser mon prochain ? Et à partir de là, tout ce qui relève du commerce avec ce qui est matériel, les objets, mais tout ce qu'on va prendre de la nature, voilà, je travaille sur du bois, je suis menuisier ou ébéniste, la question morale n'intéresse mon travail que dans la mesure où il va avoir une répercussion sur des hommes. D'accord ? Mais je ne vais pas penser à un rapport absolument éthique au bois. Et ce n'était pas considéré. Donc, du point de vue de l'objet, l'objet, le bois, était un objet qui était, on pourrait dire, tout le temps présent. Il n'y avait pas de problème de disparition du bois. Vous voyez, ça se renouvelait. Donc, je ne m'interrogeais pas sur une question morale par rapport à mon rapport à ce qui était non humain ou extra-humain. Même chose, d'ailleurs, pour les bêtes. Il y avait sans doute une forme de sensibilité, de morale qui impliquait déjà là beaucoup plus notre rapport à l'animal. Mais d'une certaine façon, l'animal n'était pas menacé de disparition ou était, on pourrait dire, tellement intégré à la vie des hommes que ça intéressait peut-être plus la religion que vraiment une question à proprement parler morale. Je dis la religion parce que, bien sûr, le rapport à l'animal a toujours été un rapport fondamental du point de vue religieux dans les religions primitives, mais aussi dans le christianisme, si on lit bien les textes de l'Évangile. Et alors, du point de vue du sujet agissant, parce que la techné n'était qu'une région de la vie humaine. C'est-à-dire que voilà, la technique, c'était produire des objets, remédier à certains manques, à des besoins. Donc, c'était un tribut, dit-il, payé à la nécessité. Aujourd'hui, la technologie ne se présente pas simplement comme un domaine particulier de l'activité, mais comme la destinée même de l'homme, comme ce qui est le moteur d'un progrès qui se justifie lui-même. Vous avez cette idée du progrès auto-justificateur. Le problème du progrès, c'est que vous ne pouvez rien dire contre le progrès parce qu'il s'auto-justifie, parce qu'on vous dit c'est un processus où on va toujours vers le mieux. Et si vous dites « oui, mais regardez, en attendant, c'est la merde », ils vous disent « oui, mais c'est mieux demain ». C'est le problème du progressisme, hein. Dire « ah oui, oui, mais là, mais attendez ». Et en plus, avec ce phénomène où lui-même produit des nouveaux, des nouvelles formes de mal, donc il va falloir encore du progrès pour remédier à ces nouvelles formes de mal qu'il a lui-même introduit. Dès lors, il faut toujours aller de l'avant, parce que qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez des déchets nucléaires, vous avez des trucs, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous êtes obligé de progresser encore. Donc, vous voyez, cette auto-justification du progrès par lui-même. Aussi bien parce qu'il dit « ça sera mieux demain », donc il a toujours raison. Vous pouvez dire n'importe quoi sur le présent, il vous dira « oui, mais demain ». Et puis aussi parce qu'il produit des nuisances auxquelles il ne pourra remédier que par un surplus de progrès. Donc désormais, la technique et donc tout ce domaine-là qui n'était pas l'enjeu majeur de la morale le devient parce qu'on est dans l'idée d'un destin technique ou d'un destin technologique de l'homme. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qui découle de cela, la signification éthique faisait partie du commerce direct de l'homme avec l'homme, y compris le commerce avec soi-même. Toute éthique traditionnelle est anthropocentrique. Donc, à partir de cela, vous voyez, c'est pas simplement... Vous voyez, le premier point, c'est on ne considérait pas la technique. Là, deuxième point... on ne considérait pas la nature comme telle. La nature extérieure, elle était une réserve inépuisable. Elle n'était pas affectée c'était seulement l'individu qui pouvait être touché, l'homme avec l'homme, vous voyez, mais un individu, en plus on le verra, qui est proche. Donc cette éthique traditionnelle est anthropocentrique, elle n'est pas centrée, elle n'est pas écologique, justement. Une pensée écologique, c'est une pensée du décentrement, c'est-à-dire que même si l'homme importe spécialement, il est pris dans un réseau de relations, de dépendances, et donc, d'une certaine façon, l'écologie nous décentre, parce qu'elle essaye de penser ben voilà, l'environnement naturel, etc. Troisième point, pour l'agir dans cette sphère de l'éthique traditionnelle, on estimait que l'entité homme est sa condition fondamentale et constante en son essence et qu'elle n'est pas elle-même un objet de la techné transformatrice. Oui, cette morale présupposait, c'est le troisième point, une nature humaine stable. La nature humaine n'était jamais remise en cause en elle-même, puisqu'elle était un donné qu'on ne pouvait pas transformer, c'était structurel. On souffrait, on mourait, on se reproduisait par voie sexuelle, mais à partir du moment où tout cela peut être modifié, vous voyez, vous ne pouvez plus simplement vous appuyer sur la notion de nature. L'éthique traditionnelle a du mal... Elle affirme beaucoup la nature humaine, mais le problème, c'est qu'à partir du moment où on peut changer la nature humaine, à partir du moment où on peut agir sur le génome, sur des implants qui viendraient créer un surhomme, la question se pose de dire, d'accord, la nature humaine est une option. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Pourquoi continuer avec cette nature humaine? Ce n'était pas une option autrefois. Donc voilà ce qui est nouveau, c'est que la nature humaine qui était perçue comme nécessité nous apparaît désormais comme optionnelle. Mais alors la question qui va se poser, vous voyez, on retrouve cette question de radicalité, d'extrémité dans la réflexion. Pourquoi? Pourquoi cette nature humaine? Telle qu'elle a été vécue par nos pères, vulnérables, mortels, sexués, etc. Quatrième point, le bien-être et le mal-être dont l'agir devait s'occuper étaient proches de l'action, soit dans la praxis elle-même, soit dans sa portée immédiate, et ils n'étaient pas affaire de planification à long terme. Cette proximité des buts valait pour le temps aussi bien que pour l'espace. Donc, première chose, hein, la morale traditionnelle est une morale où la technique n'est pas un objet central. Deuxièmement, c'est une morale anthropocentrique, elle s'intéresse au rapport interhumain. Troisièmement, c'est une morale qui est fondée sur une nature humaine pensée comme stable et qu'on ne peut pas changer. Bon. Et quatrièmement, c'est une morale de la proximité. C'est-à-dire que la question du bien ou du mal, c'est la question de qu'est-ce que je peux faire à celui qui est près de moi, danger, hein, voyez, ou quelles sont les conséquences de mon action, mais encore proche dans le temps. Et dès lors, je m'intéresse à des situations qui ne relèvent que de mon ressort et de mes potentialités immédiates qui adhèrent d'une certaine façon à mon corps. Mais dès que on arrive à quelque chose qui est ce dispositif techno-industriel qui produit des effets disproportionnés, la morale ne peut plus être une morale simplement de proximité. C'est intéressant parce que la morale de Lévinas est encore d'une certaine façon une morale de la proximité, morale du visage. Éthique du visage. Le problème, c'est que la technologie fait que nous entrons dans une dimension qui est celle d'une éthique sans visage, où il faut s'interroger. Vous vous souvenez, cette question de l'invisibilité des effets que crée le dispositif technologique, où ceux que je ne vois pas, ceux qui n'ont pas de visage pour moi, je dois les prendre en considération dans mon action. J'achète de la viande en supermarché, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? J'achète un jouet made in China ou made in Bangladesh, qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela? Il n'y a pas de visage. Vous pouvez dire, mais moi j'ai fait que du bien, vous voyez, à proximité, j'ai pris avec l'argent que je n'ai pas volé, j'ai acheté un jouet que j'ai payé et c'était pour l'offrir à mon enfant. Voilà, du point de vue de la morale de la proximité, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème du point de vue de la morale traditionnelle. Mais le problème, c'est que votre action est désormais insérée dans un dispositif qui implique non seulement des gens très très loin, mais en plus des effets à très long terme. Parce que si ces jouets sont faits dans des usines avec, un dégagement de CO2, des effets de réchauffement climatique, etc. Mais bon, oui. C'est ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a est-ce que le vide éthique est dû à une caducité totale de la morale traditionnelle ou alors est-ce que c'est un correctif? Ça, c'est une vraie question, parce que vous posez vraiment une question fondamentale. Est-ce qu'ici, il s'agit simplement de se rendre compte que la prudence, il faut revenir à la prudence aristotélicienne, mais comprendre cette prudence à partir de certains principes de précaution, etc., relatifs à la technologie? Donc il y a simplement un déplacement des enjeux et aussi une finesse ou une lucidité à avoir sur les conséquences et les contingences liées à tel dispositif. Ou alors, est-ce qu'il faut dire qu'il y a la prudence humaine elle-même est d'une certaine façon mise à mal, parce que les effets sont tellement nombreux et tellement relèvent même à la fois de l'incalculable mais aussi du calculable, c'est-à-dire qu'à la fin, on devra dire... Ce sont des machines elles-mêmes ou des algorithmes eux-mêmes qui pourront anticiper sur certains effets. Donc il faudra encore se livrer à la technologie pour essayer de poser un acte prudent. Et la question, c'est est-ce que même notre prudence ne devra pas être d'une certaine façon dopée technologiquement vu la multitude des effets, en plus des effets invisibles, vous voyez? Comment est-ce que je vais être prudent? Il faut que je sois avec un compteur Geiger, avec savoir les ondes qui passent tout le temps. La pollution, vous savez qu'il y a eu un rapport qui est sorti sur la pollution et les substances toxiques qui étaient répandues partout dans la nature. Récemment, on s'est rendu compte qu'à Paris était un lieu de très grande concentration de déchets toxiques à cause des laboratoires, etc. Il y a eu un rapport qui, alors en ce moment, on se dit, mais c'est terrible, c'est un problème énorme. Admettons que je dise la solution, c'est de faire du bio dans une petite ferme. J'ai une ferme avec un petit champ. Certains d'entre vous qui sont venus à la maison, j'en ai parlé déjà, mais cette question-là, mais les autres n'ont pas entendu. Voilà, mon projet. Je fais une ferme. Vous pourrez lire un article là-dessus dans la revue Limite la semaine prochaine. Sur le site plutôt. Je veux faire une ferme. Je dis, voilà, l'enjeu, c'est le retour au local. Il y en a beaucoup qui disent ça. Je vais donc dire, voilà, j'abandonne tout ça. Je vais cultiver mes légumes, mes fruits. Je vais caresser mes chèvres et les traire, etc. Bon, très bien. Ça, c'est bon dans l'ordre de la morale traditionnelle. Parce que j'ai beau faire ça, ça suppose que je vais trouver un endroit où la nature est entièrement préservée. Or, qu'est-ce que nous dit Jonas ? La nature, désormais, est nulle part préservée. Nulle part. Attendez, vous allez aux antipodes, vous allez au milieu du Pacifique, la grande barrière de corail. Vous pouvez dire, là, vous êtes vraiment dans la pure nature sauvage qui est à l'abri quand même, la grande barrière de corail. Eh bien, la grande barrière de corail a diminué de moitié depuis 1985 et on pense que c'est des effets du réchauffement et de la surémission de CO2. Donc, même là, c'est touché. Vous faites votre parcelle bio, mais à côté, vous avez votre voisin qui fait des trucs aux pesticides de Monsanto. Hein, le Roundup, vous connaissez le Roundup ? R-O-U-N-D-U-P. Le problème du Roundup, c'est que le type, il fait ça dans son pesticide. Vous êtes l'apiculteur, par exemple, à côté bio, mais vos abeilles, elles ne vont pas s'arrêter aux délimitations que vous avez faites. Hein. Elles ne suivent pas le cadastre, les abeilles. Et puis, donc, elles crèvent toutes. Mais aussi, le Roundup, il se répand dans l'atmosphère et il retombe dans la pluie, dans le brouillard, voire même, il y a des choses qui polluent les nappes phréatiques. Donc, l'eau est contaminée. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous comprenez ? Un nuage radioactif, est-ce qu'il va s'arrêter à la frontière ? Quand vous construisez une centrale nucléaire sur votre territoire, en fait, déjà, vous êtes dans quelque chose qui ne concerne plus. Autrefois, on pourrait dire, ben voilà, vous êtes dans votre territoire, votre pays, vous êtes responsable, et ça ne concerne que vous, vous faites ce que vous voulez, vous êtes dans cette éthique de la proximité, mais là, c'est fini. C'est complètement fini. Une centrale nucléaire, ça a des effets. Tchernobyl, ça a eu lieu en Ukraine, mais c'est la Biélorussie qui a été atteinte. De plus. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ? Vous allez revenir au local, au bio, mais il n'y a plus rien qui soit naturel, qui ne soit pas contaminé. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez redoubler de la technologie. C'est ce qui se fait. Vous savez qu'après Fukushima, donc, la question s'est posée de savoir comment faire pour produire des légumes à peu près potables, mangeable, pas trop contaminé, dans une région qui avait été infectée par le rayonnement. Qu'est-ce qu'on a fait ? Ben, aujourd'hui, les grandes industries électroniques se reconvertissent en usines à légumes. Fujitsu a fait un lieu Panasonic, Toshiba. Vous avez des légumes Toshiba. Parce que l'idée, c'est quoi ? C'est que si vous voulez trouver un truc qui est à peu près naturel ou diététique, c'est-à-dire qui n'a pas été contaminé, eh bien, vous devez faire pousser vos légumes dans un abri anti-atomique. Sharp, qui est connu pour ses photocopieurs multifonctions d'entreprise, s'est mis dans la culture des fraises. Et il y a des usines, on appelle usines numériques de fraises, qui ont été faites à Dubaï, endroit où on ne s'attend pas à voir pousser les fraises. Hein. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, l'endroit où il y a l'argent. Avec quoi vous faites pousser les légumes ? Avec de l'argent. Et c'est ça. Parce qu'avec l'argent, qu'est-ce que vous pouvez payer ? Un milieu entièrement stérile, avec des éclairages fluorescents, les LED imitent la lumière du soleil, vous voyez, et les fréquences qui permettent la croissance des végétaux. Hein, il vous parle d'un éclairage spécial optimisé pour la croissance des végétaux. Avec une eau qui a été purifiée, culture hors sol, bien sûr, hein, c'est hors sol, hein, vous voyez. Et puis, des microchips qui sont là, vous voyez, pour vérifier l'état physique de chaque plante, etc. La stérilisation totale, l'asepsie totale, de telle sorte que ce qui arrive dans votre assiette a été vraiment calibré pour être vraiment diététique et naturel. Panasonic, qui a une usine à Singapour, produit donc des Veggie Life Salads. Donc des salades végétariennes life, ça veut dire c'est bon pour la santé et c'est bio. À tel point que un des grands écologues et microbiologistes contemporains qui s'appelle, bon c'est facile, vous comprenez comment c'est écrit, il s'appelle Dixon Despommiers. C'est intéressant, il s'appelle Despommiers, sans S, mais Despommiers. Explique que l'avenir, c'est le vertical farming, c'est-à-dire non pas le retour à la terre, mais le retour à l'immeuble. Vous transformez les immeubles, les tours, en lieu de fabrication de légumes bio. Et il dit, c'est l'avenir, si vous voulez, d'une agriculture bio et de proximité, parce qu'au milieu des villes, vous aurez ces tours, vous voyez, où on fabriquera des choses, etc. Donc, à quoi ça nous amène comme réflexion, cela ? Ça nous amène à la réflexion que vous voyez bien qu'on est dans une situation tellement extrême qu'on nous présente ça. Il n'y a pas simplement l'idée « je dois revenir au local, je dois revenir à la terre » parce que la terre elle-même est contaminée, la terre elle-même, tout est atteint. Le dispositif techno-industriel, la globalisation, c'est ça. C'est que rien n'est épargné. Et dès lors, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, pour retrouver un peu de naturel, il faut redoubler l'artifice, vous voyez ? C'est l'Éden qui est reconstitué par un redoublement, une récidive de la chute. Voilà ce qui se constitue aujourd'hui. Donc, ça signifie que... Est-ce que le but, c'est d'aller vers le vertical farming et de faire ça, de se lancer dans les usines numériques de légumes bio et de proximité, vous voyez ? Ou alors, est-ce que ça veut dire, oui, il faut revenir à la terre, peut-être, retrouver du local, de l'agriculture à l'ancienne, disons, de l'élevage, de la... Mais, en ayant un combat politique à côté, un combat politique et international. Et parce que ça touche tout. Donc ça veut dire que je ne peux pas me contenter, je suis embarqué dans quelque chose qui implique de moi, désormais, un combat politique, un combat international, je ne dis pas mondial, parce que international, ça veut dire qu'il y a encore des nations, hein, parce que justement, je veux préserver le local, je veux préserver le national, mais c'est international. Et je ne peux plus simplement me contenter de ma petite proximité. Vous voyez, un combat qui est à l'échelle. Et oui, et déjà le Christ nous le disait, hein, je vous envoie dans le monde entier. C'est à ce niveau-là que n'importe quel mouvement éthique maintenant doit se faire. Il doit y avoir une considération. Mais ça ne doit pas nous perdre dans des logiques uniquement de globalisation, justement, ou d'institutions internationales. Il faut sauver le local, il faut sauver le national... mais en même temps en prenant en considération ces enjeux qui les dépassent complètement désormais. Et c'est ça ce que veut dire Hans Jonas. Vous voyez, la situation est tellement extrême que la morale de la proximité ne suffit pas. Et même, c'est le dernier point que je voulais voir avec vous, il s'agit même de penser une morale qui désormais s'interroge sur les conditions de possibilité d'une vie humaine encore sur la Terre. De telle sorte que l'impératif catégorique implique une nouvelle dimension qui n'était jamais pensée, même par Kant, etc. Jonas le dit, hein, il dit, en gros, il faudrait dire maintenant, dans cet impératif d'un nouveau type, agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur la Terre. Autrefois, la présence de l'homme dans le monde était une donnée qui ne faisait pas question. Maintenant, elle fait question. Et dès lors, non seulement c'est agi de telle sorte que la permanence d'une vie authentiquement humaine continue sur la Terre, mais même pense de telle sorte qu'une vie authentiquement humaine, la vie qui nous a été léguée aussi par nos pères, puisse se continuer. Mais pourquoi ? Pourquoi cette vie-là ? Pourquoi ne pas passer à des formes mutantes ? Pourquoi est-ce que nous éprouvons quand même un doute, malgré tout, quoi qu'on en dise, devant l'usine numérique de fraises à Dubaï ? Pourquoi est-ce qu'on a un doute ? Parce que c'est la disparition de la Terre, en fait. C'est une préservation qui est la disparition de la Terre, puisqu'en réalité, on va produire des fruits hors saison. Vous voyez, une femme enceinte avec son caprice qui disait oh, « je voudrais des fraises ». Ben là, elle est à Dubaï, où elle est en hiver, ça ne change rien. Les fraises sont toujours là dans les usines numériques de fraises. Vous n'avez même plus la possibilité d'avoir un caprice de femme enceinte. D'ailleurs, vous n'avez même plus la possibilité d'être une femme enceinte, en fait. Puisqu'on va fabriquer aussi les enfants comme les fraises, de manière saine, avec un génome modifié de telle sorte qu'ils puissent résister. Vous voyez, comme en plus ceux qui ont fait des pesticides et qui créent, ils doivent après nous vendre des semences qui résistent à leurs pesticides, vous voyez. Donc de la même façon, quand tout sera bien radioactif et quand tout le monde aura bien été stérilisé par l'industrie, par les effets de pollution de l'industrie, eh bien il faudra bien nous vendre après la fabrication des enfants avec un génome qui résiste davantage à la radioactivité, par exemple. On fera un croisement avec, vous savez, ces bactéries qui ont une résistance à la radioactivité qui est 100 000 fois supérieure à la nôtre. On va trouver un truc. Donc c'est fini, de toute façon, pas de femme enceinte, pas de caprice de femme enceinte, tout ça est balayé. Et vous voyez bien que c'est la Terre qui disparaît. Nous survivons, mais avec une disparition d'une vie authentiquement humaine. Et c'est pour cela que Jonas va dire, est-ce que la démocratie, comme Heidegger, est le meilleur régime pour résister à cela? Il a des doutes. Premier point, doute sur la démocratie. Je vous laisserai lire le passage de Jonas qui concerne cela. Et il dit, la démocratie ne suffit pas parce qu'il faut quelque chose qui puisse garantir métaphysiquement l'humain. Et donc, il parle d'un retour, d'une certaine façon, au sacré. Je vous lis ce passage. « Maintenant, nous frissonnons dans le dénuement d'un nihilisme dans lequel le plus grand des pouvoirs s'accouple avec le plus grand vide. » C'est terrible, hein ?« La plus grande capacité avec le plus petit savoir du à quoi bon. » Nous avons un pouvoir technologique démesuré, mais en même temps, vous voyez, il n'y a pas la morale qui suit. Et même, on est dans un relativisme lié à ce développement technologique qui fait que, vous voyez, il y a une disproportion totale. C'est ça le nihilisme d'aujourd'hui, hein. Le plus grand des pouvoirs qui s'accouple avec le plus grand vide moral. C'est la question de savoir si sans le rétablissement de la catégorie du sacré qui a été détruite de fond en comble par l'Aufklärung, par les lumières scientifiques, nous pourrons avoir une éthique capable d'entraver les pouvoirs extrêmes que nous possédons aujourd'hui et que nous sommes presque forcés d'acquérir et de mettre constamment en œuvre. Seule la crainte de porter atteinte à quelque chose de sacré est à l'abri des calculs de la peur et de la consolation tirés du caractère incertain des conséquences encore lointaines. Vous voyez, la crainte de porter atteinte à quelque chose de sacré. Ça signifie, hein, là il ne le dira jamais Jonas, mais nous pouvons le dire, c'est qu'il y a dans cette situation extrême, malgré tout, pour rappeler le sacré de la vie, eh bien une primauté de l'annonce de l'évangélisation. Sans cela, si vous ne réouvrez pas une espérance, Si vous ne refondez pas tout dans une dimension, je dirais, profondément transcendante, qui fait que la vie humaine et même la nature est préservée dans une certaine mesure, l'homme renvoyé à sa responsabilité, eh bien, c'est plus possible. D'une certaine façon, Laudato Si est tout à fait dans la suite de ce qui est dit, en train de ce que dit Jonas ici, même s'il n'est pas cité. Et pour finir, vous voyez, la question qui est posée ici, c'est de dire préserver une vie authentiquement humaine, c'est préserver ce qu'on appelle les générations futures. Ce thème qui est devenu une sorte de rengaine fastidieuse à laquelle on ne croit pas beaucoup, vous voyez. Bon. Mais il faut l'entendre chez Jonas sous cette forme qui est d'ailleurs assez paradoxale, parce qu'il y a un cercle dans la pensée de Jonas qui est rarement constaté. La génération future, ça veut dire que dans le futur, il y ait encore des engendrements. Et génération future, c'est pas simplement il y a encore des individus sur la Terre, c'est pas ça, des individus de type rationnel, etc. Mais que la vie reste authentiquement humaine. Et qu'est-ce que c'est qu'une vie authentiquement humaine? C'est une vie où il y a des parents qui engendrent des enfants, où les êtres ne sont pas fabriqués, voyez. Donc l'idée de préserver les générations futures, c'est préserver l'acte de génération aussi pour le futur. Qui, pour le futur, est le seul acte capable d'ouvrir un avenir et de ne pas nous piéger dans une sorte de futur programmable ou technoscientifique, futuriste, un futur futuriste. Le futur avec un avenir, c'est un futur où il y a un homme et une femme qui, pour des raisons assez obscures, font des enfants. C'est vrai, enfin, c'est pas tout à fait rationnel. Il y a de l'amour, il y a du désir, il y a un manque de calcul et d'anticipation assez grand. Regardez, dans ma famille, on a 7 enfants alors qu'on est incapable de se gouverner soi-même. Dans celle de Louis-Joseph, j'en parle même pas, vous voyez. Et pourtant, vous voyez, il est là, Louis-Joseph, 10e de 16. Bon, l'aberration totale, quoi, si vous voulez, du point de vue du calcul. C'est vraiment le truc à ne pas faire si vous êtes un petit peu, à calculer, à réfléchir, à vous dire, mais est-ce que j'en suis capable? Vous voyez, si un seul instant, les parents de Louis-Joseph s'étaient posé la question de savoir s'ils étaient capables, mais c'était fini. Ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, Dieu est capable, après tout, il nous a laissé ce truc-là, bon, lui, il est capable, il va... Nous, on est un peu nuls, mais on va voir. Vous savez, c'est un acte. Vous voyez le lien entre la logique, là déjà, vous voyez le lien entre la logique de l'engendrement et la logique de la fécondité, de la transcendance, du rapport à la transcendance, hein, du rapport à une providence. Donc, il faut retrouver, vous voyez, quelque chose qui à la fois est une vigilance pour la Terre, une responsabilité pour la Terre, mais qui préserve aussi la vie humaine à travers les engendrements. Or, le cercle qu'il y a dans la pensée de Jonas, c'est que ce qui nous rend vraiment responsables, c'est d'avoir des enfants. C'est de rester sur ce modèle père, parent, enfant. Modèle qui existe aussi dans la vie religieuse chrétienne. Les religieux n'ont pas d'enfants biologiquement, mais c'est penser sur ce modèle-là. C'est-à-dire, vous êtes mes enfants, vous êtes mes fils, je suis père, et c'est là que se joue ma responsabilité. C'est-à-dire que je ne peux vraiment être responsable que si j'ai engendré. Mais voyez, en même temps, ma responsabilité, c'est de faire en sorte qu'il y ait encore des engendrements futurs. Vous voyez, le cercle, il est là. C'est-à-dire le transhumaniste qui n'a pas d'enfant et qui cherche à fabriquer un surhomme, en fait, il n'est pas responsable. Il faut déjà entrer dans le généalogique, déjà entrer dans les engendrements pour entrer dans la responsabilité. Je vous lis ce texte conclusif, qui est pour moi un des textes les plus importants de la philosophie morale. La grande question, dit-il, pour sortir du dualisme, c'est de trouver le lien entre l'être et le devoir-être. Vous savez que ça a été une des questions aussi de... contre le nihilisme que dénonçait Nietzsche, où il y avait un devoir-être qui était plus important que l'être. Vous vous souvenez, la valeur était plus importante que la vie, et il fallait valoriser la vie. Bon, et on avait vu que c'était du nihilisme. Eh bien, là, ici, il dit, voilà, il faut trouver, c'est ce que disait Nietzsche, un devoir-être fondé sur l'être. Ce que dit Aristote et Thomas, enfin, ce que se trouve chez Aristote et Thomas d'Aquin aussi. Il faut penser à un moment où la valeur est fondée sur un fait. Or, le problème, c'est ce dualisme post-gnostique, si vous voulez, qu'il y a dans la pensée morale, où les valeurs existent en dehors de la vie et il faut valoriser la vie. Mais dès que vous voulez valoriser la vie, déjà vous êtes dans cette logique, voyez, où vous allez éventuellement détruire la vie au nom d'une vie meilleure. Vous voyez, au nom d'une vie qui aurait plus de valeur. Et donc, comment trouver le lien entre fait et valeur, entre être et devoir être? Y a-t-il un lieu de la vie où le fait et la valeur, où l'être et le devoir être viennent ensemble? On va retrouver la question de la sage-femme et de la paternité ici, vous allez voir. La crux, la croix contemporaine de la théorie morale, est précisément le prétendu gouffre entre l'être et le devoir, qui pourrait seulement être enjambé par un fiat soit divin, soit humain, l'un et l'autre étant des sources hautement problématiques de validité, le premier du fait de la contestation de l'existence de Dieu, alors même que son autorité est concédée à titre hypothétique, le second du fait du manque d'autorité, alors même que l'existence est effectivement donnée. C'est-à-dire, généralement, l'écart entre l'être et le devoir-être, comment est-ce qu'on le surmonte? En disant, tu dois ceci parce que Dieu le commande. Oui, mais ceux qui ne croient pas en Dieu. Ou tu dois ceci parce que Kant te l'explique. Oui, mais enfin, ceux qui ne reconnaissent pas l'autorité de Kant. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va être ultimement le fondement, mais un fondement qui soit suffisamment large pour toucher tout le monde dans cette situation contemporaine? Il faut donc un paradigme ontique donné vraiment dans les faits, hein, c'est ça ontique, dans les temps, et pas ontologique comme le pense Heidegger, dans lequel le simple est, cela est, factuel, coïncide à l'évidence avec un « doit » qui n'admet pas, par conséquent, le concept d'un simple « est ». C'est-à-dire ici, trouver un fait qui est déjà en lui-même une valeur, trouver un lieu d'être qui est déjà un devoir. En réponse à l'injonction « Montrez-nous un seul cas, un seul suffit à briser le dogme ontologique, c'est-à-dire une fondation transcendante de la morale, où cette coïncidence se produit », on peut renvoyer à ce qui est le plus familier. Voilà, écoutez ce passage. « Le nouveau-né, dont la simple respiration adresse un « tu dois » irréfutable à l'entourage, à savoir qu'on s'occupe de lui. Vois et tu sauras. » Quand tu es face au nouveau-né, voilà un être qui implique un devoir-être de ta part sous la forme de responsabilité. Rien à voir avec un jugement sur sa dignité. Écoutez bien, hein, on ne cherche pas à savoir s'il est digne ou pas digne. Ce n'est pas une théorie. Rien avec une compassion, rien avec une comparaison, rien avec un contrat. Le devoir qui se manifeste dans le nourrisson possède une évidence indubitable, une concrétude et une urgence. La facticité extrême de l'être tel, le droit le plus extrême à cette facticité et l'extrême fragilité de l'être coïncident ici. C'est-à-dire, on retrouve cette thèse de Lévinas, vous savez, le plus fragile, c'est celui qui aussi envoie le commandement, pour moi, à être responsable, le plus fort. En lui se manifeste de façon exemplaire que le lieu de la responsabilité est l'être plongé dans le devenir, livré au caractère périssable et menacé de périr. Ce n'est pas, vous voyez, ce qui fonde la morale, ce n'est pas des choses qui sont posées dans l'éternel, sub specie aeternitatis, comme chez Kant, mais c'est au contraire ce qui est sub specie temporis, dans le temps, dans la fragilité, dans le périssable. Le lieu de la responsabilité doit envisager les choses, c'est dans ce lieu-là, et elle peut perdre son tout en un seul instant. Dans le cas d'une vulnérabilité d'être durable et critique, comme celle qui existe ici, la responsabilité devient un continuum de tels instants. C'est-à-dire qu'à chaque instant, je suis requis pour prendre soin du nouveau-né. Et alors, vous voyez, il n'explicite pas ici le lien de paternité, c'est moi qui le fais. Mais vous comprenez, quand vous êtes père ou mère, vous n'avez pas simplement devant vous une personne vulnérable. Vous avez une personne dont vous êtes le principe de vulnérabilité. Parce que s'il peut souffrir, c'est quand même vous qui l'avez fait être. C'est pas simplement « il va mourir », c'est « je suis responsable, je suis une des causes de sa mortalité ». C'est profondément pensé, vous savez, au moment des noces de Cana, quand Marie dit « ils n'ont plus de vin », et Jésus répond « qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Et je crois, je ne sais pas qui c'est, si c'est Chrysostome, enfin c'est un commentaire qu'on trouve chez Thomas d'Aquin, mais qui reprend les commentaires d'autres pères de l'Église, qui dit « le pouvoir que j'ai de faire des miracles, je le tiens de mon Père et pas de toi, Marie. » Il dit « qu'y a-t-il entre moi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Alors, vous voyez, de quelle heure parle-t-il ? L'heure de Christ, bien sûr, c'est la croix. Et donc, le raisonnement, c'est de dire, de toi, je ne tiens pas mon pouvoir de faire des miracles, ce n'est pas de toi, Marie, que je tiens le pouvoir de faire des miracles, mais je tiens de toi le pouvoir de souffrir et de mourir. Cette mort, qui la donne au Fils ? C'est Marie. Vous avez ce très beau poème de Marie-Noël qui dit « Cette mort sur le Golgotha, mon enfant, c'est moi qui te l'ai donnée ». Bien sûr, ce n'est pas elle qui le met à mort, mais c'est elle qui donne la possibilité de mourir au Christ, de telle sorte qu'il y a identification à un certain niveau entre Marie et la croix. Si Marie n'avait pas offert sa chair, si n'avait pas pris chair de la Vierge Marie, vous voyez, il n'y aurait pas de possibilité pour un Dieu de souffrir et de mourir. Donc la possibilité de souffrir et de mourir vient de la Vierge Marie. Vous comprenez d'où la difficulté de dire qu'il me soit fait selon ta parole, parce que la réalité c'est que l'ange Gabriel est apparu à toutes les femmes sous un certain rapport et leur a tous demandé « est-ce que tu es d'accord ?» Mais toutes elles disaient « non, tu te rends compte, Dieu qui va souffrir, qui va mourir, voilà ce que tu me demandes de donner. » L'horreur, la radicalisation du péché aussi, en même temps que la rédemption. On pourrait dire que, voilà, on pourrait dire non, c'est pas possible. Mais je veux pas donner la mort à Dieu. Je ne veux pas donner la mort à Dieu. Mais c'est ça, si vous voulez, je prends ce cas extrême, radical, et on est dans l'extrême ici, pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'engendrer. Vous n'êtes pas simplement face à un être vulnérable, c'est à cause de vous qu'il est vulnérable. Et souvent, les parents sont devant le visage de leur enfant avec cette sorte de désarroi, en se disant, voilà cet être qui est beau, qui est vivant, qui est... Il y a un moment où il va être confronté au mal, où il risque d'être broyé par cette machinerie de péché, cette structure de péché, vous voyez, qui s'installe dans le monde. Et qu'est-ce que je fais avec ça, vous voyez ? Vous comprenez ? C'est terrible. Et voilà, et c'est pour ça que la mère va au chevet de son enfant qui est en train de dormir, elle vérifie s'il respire et elle pleure. Elle pleure. Pas parce qu'il va mal, mais parce qu'elle sait qu'elle a donné la vie à un mortel. Et pas simplement à un mortel, à quelqu'un qui est en plus mortel et peccable, c'est-à-dire... La mort aussi spirituelle est possible pour lui. Ce n'est pas simplement la mort physique, voyez. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Ce n'est pas simplement une vulnérabilité, c'est que ce nourrisson, je suis au principe de sa vulnérabilité. Et moi-même étant au principe de sa vulnérabilité, alors lui est le principe de ma responsabilité. Ultimement, et c'est ça le fond à mon avis de la pensée de Jonas qui retrouve sa réflexion sur le vivant, c'est à l'intérieur de l'engendrement que se joue une responsabilité concrète. Pas simplement la grande morale où on vous dit « il y a des lois éternelles qui doivent s'appuyer, vous devez être conforme à ces lois ». Non. Ni la morale utilitariste, vous voyez, où il faut gérer, ajuster les préférences de chacun. Une responsabilité pour autrui qui se joue dans l'engendrement. Chose qu'on retrouverait par exemple dans certains textes de Charles Péguy, hein, qui a aussi pensé cette paternité ou cette maternité, mais d'abord lui la paternité, comme l'aventure des temps modernes, mais aussi comme le seul lieu où, beaucoup plus qu'en politique, on est responsable pour l'avenir. Parce qu'on est père. Parce qu'on souffre dans son enfant, plus qu'on ne souffre en soi-même. Et donc, vous voyez, ici, vous avez une sorte de cercle parce que, d'une certaine façon, il faut avoir engendré pour entrer dans cette responsabilité qui pense l'avenir. Mais penser l'avenir, c'est justement aussi garantir l'engendrement, qu'il y ait encore des générations humaines, proprement humaines, et non pas simplement des fabrications technoscientifiques. Vous voyez, et c'est là, vous voyez, qu'on touche à des questions radicales de morale. Et ça nous permet aussi de dire que cette réflexion à l'extrême ne vient pas simplement en se confrontant à la technologie, se confronte à des questions nouvelles, mais à travers ces questions nouvelles, est obligé de repenser les choses les plus anciennes. Donner la vie à un mortel. Pourquoi y a-t-il de l'humain sur la Terre ? Pourquoi ? Vous voyez, et c'est en cela que notre époque est une époque vraiment formidable, extraordinaire, parce qu'elle nous pousse d'elle-même à cette réflexion extrême, sinon nous disparaissons.